Chapitre 4. Pourquoi obscurcir le soleil ? C'est toujours ainsi, répéta Pierre. Tu te fâches tous les soirs à souper, tous les soirs tu réponds mal à ta mère. Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire, s'écria Rick, étonné qu'on interprétât de cette façon sa plainte. On me gronde toujours devant tout le monde, alors je réponds, je me défends, c'est forcé. Et après ça, c'est moi qui ai tort, c'est à moi que papa fait les gros yeux. Demanda Pierre en riant. À moi, c'est inutile. À ta mère, parce que tu lui as mal parlé, et devant tout le monde, tu sais. Alors, pourquoi te plains-tu d'être grondé aussi devant tout le monde ? Écoute, si tu veux être mon poteau, il faudra changer tout ce fourbi. Ton poteau ? Comment ça ? Demanda Rick avec intérêt. Un poteau, c'est un bon camarade, un vrai. On cause librement avec son poteau, on lui demande des services, on lui en rend quand on peut. Je serais trop content d'être ton poteau, s'écria le jeune garçon, oubliant sa maussaderie. C'est entendu. Pour commencer, nous allons sortir Mademoiselle Belle et Bonne de son costume de voyage. C'est ta machine à écrire que tu appelles ainsi ? Oui, et sais-tu qui m'a offert cette charmante personne pour compagne de mes jours ? Des enfants de ton pays. Dans ma salle, à Paris, il y a 8 machines pareilles qui ont été envoyées à mes camarades et à moi par des écoliers de la Suisse française. Ils ne savent pas, ces petits, le plaisir qu'ils m'ont fait. Et l'intérêt, l'occupation, la facilité d'écrire tant qu'on veut des lettres propres, lisibles, comme les lettres de chacun. Je te dirai franchement, mon poteau, à ce mot, Rick rougit de joie et de fierté, que je n'avais goût à rien avant de recevoir ma machine. Elle m'a mise en branle pour le travail. Tu la vois, cette aimable demoiselle ? Ses doigts rapides et adroits avaient déjà trouvé les 4 crochets qui retenaient au socle la gaine de fer blanc. Pose la gaine dans un coin. Moi, je vais m'assurer si le chariot roule bien. Il y a un paquet de papier dans la gaine. Donne-moi une feuille que je la place. À présent, je vais frapper sur les touches et tu me diras si tous les caractères se marquent bien. Rick considérait avec stupéfaction les mouvements sûrs de ses mains qui allaient et venaient parmi les petits ressorts, les petits leviers, les touches, la barre d'espace, les pédales de mutation. Pour commencer, Pierre essayait le clavier, une lettre après l'autre. Puis il souleva le chariot. « Tout est-il bien marqué ? Tu remarques que cette demoiselle est très discrète. Son écriture est cachée. Les autres machines, plus modernes, sont à écriture lisible. » On peut se relire tout en écrivant. Mais pour nous, n'est-ce pas, ça n'aurait guère sa raison d'être. Lis maintenant ce que j'ai écrit. Rick énuméra la suite des caractères A, Z, E, R, T, etc. Parfait, la chère petite n'a pas souffert. Mon poteau, fit Rick d'une voix émue, car il lui semblait un peu qu'il prenait une liberté en employant ce mot. Voudrais-tu m'écrire quelque chose, une phrase, n'importe quoi, que je garderai en souvenir de ce jour ? Volontiers, dit Pierre, attends que je réfléchisse un peu. Au bout d'une minute, ses doigts couraient de nouveau sur le clavier, puis détachaient la feuille de papier, l'attendaient à Rick. Celui-ci lut « Pourquoi obscurcir le soleil ?»« Je ne comprends pas, fit-il, lisant encore une fois cette phrase énigmatique. » « Oui, je comprends bien les mots, mais le sens. »« Ma mère, répondait le jeune soldat, disait cela si souvent qu'elle me l'a gravé dans la tête. Pourquoi obscurcir le soleil ? Pourquoi se gâter la vie par des querelles, des mots désagréables, de la mauvaise humeur enfin ? Pourquoi s'imaginer qu'on est malheureux quand on a tout pour être heureux ? Comme toi, par exemple. » Tout allait bien à souper, on causait, on était bons amis, la mauvaise humeur a tout gâté. « C'est pas moi qui ai commencé !» protesta Rick, reprenant un ton boudeur. « Oh, tu sais, je n'entre pas dans les détails. C'est avec toi que je cause, n'est-ce pas, mon poteau ? On discute ensemble cette petite affaire. » Rick tira sa chaise tout près de son cousin et, d'un mouvement spontané de confiance et d'affection, il appuya sa joue contre la manche bleue de l'uniforme, tout près des médailles qui lui parlaient aussi à leur façon. « À moi, reprit Pierre, la guerre m'a obscurci le soleil pour toujours. Mais tu es un heureux gamin, toi. Qu'est-ce qui te manque? Tu as d'excellents parents, de gentils frangins, on t'instruit dans une bonne école. Tu as de la santé, tes yeux, tes membres. Ah, vous savez, vous autres, avec vos lamentations, vous me faites suer. On souffre autant que si on avait la guerre. Ah, c'est malheureux de parler comme ça. Allez voir un peu dans les pays qui l'ont, la guerre. Ma parole, ce n'est pas moi qui ai les yeux clos, c'est vous, vous tous. Votre bonheur vous crève les yeux, vous ne savez plus le voir. » Pierre s'était échauffé. Il s'interrompit, puis tout à coup, mit sa tête entre ses mains et resta longtemps sans rien dire. Rick était comme figé de consternation, de regret. « J'ai un affreux caractère, c'est vrai, » murmura-t-il enfin. « Mais aussi... » « Il n'y a pas de mais aussi, » fit Pierre brusquement. « Ne mets pas la faute sur les autres. Tâche, pour ton compte, de ne plus obscurcir le soleil. »« Allons, allons, » continua-t-il plus doucement. « Quand on a ton âge, on se repent sans pleurer. » Car il entendait un sanglot s'étouffer sur sa manche. « Tu n'as pas commis un crime. Tu n'avais jamais réfléchi à ça, pas mon vieux. » « À présent, on n'en parle plus. On va voir à la cuisine ce que les frangins sont devenus. » Avant de sortir, Rick plia soigneusement la feuille de papier et la glissa dans sa poche. Jamais, de toutes les réprimandes qu'il avait reçues en sa vie, aucune ne lui avait été aussi sensible que celle de son cousin. Jamais il n'avait éprouvé un tel regret, ni un désir aussi vif de se corriger. « As-tu éteint la lampe ?» demanda Pierre au moment de passer le seuil. « Bon, sans toi, j'allais oublier, » dit Rick qui se hâta de tourner le bouton près de la porte. « Et ce que maman m'aurait attrapé ?»« Comme de juste. »« Oui, mais moi, on m'attrape toujours plus que les autres. »« Parce que tu es l'aîné. »« On m'attrape toute la journée. »« Tu fais tant de sottises que ça. »« Laisse-moi voir si je puis trouver tout seul le chemin de la cuisine. » On traverse la grande chambre tout droit, la porte est en face, j'y suis. » Le brave Bock, serviable et toujours content, essuyait la dernière assiette et Popole moucheronnait partout, échappant à toutes les mains et refusant d'aller se coucher. Il poussa un cri de joie quand il aperçut Pierre, il se jeta dans ses jambes, se suspendit à son ceinturon, implora une histoire et promit d'aller au lit quand on lui aurait fait ses 36 volontés. Élise grommelait. « Avec ces gosses autour de moi, jamais je n'aurai fini. J'ai encore une grande écuellée de groseilles vertes à éplucher ce soir si je veux mettre le sucre dessus et faire ma confiture demain matin. Pour 4 ou 5 groseilles qu'on a et une pincée de sucre, il faudrait encore perdre ça. Une année comme celle-ci, pas de pommes de terre, pas de sucre et des gosses qui me vont sous les ongles. » Cette expression indiquait, chez la lente et passive Élise, le plus haut point d'énervement. « J'éplucherai les groseilles !» s'écria Pierre. « Je connais ça, on enlève la mouche et la queue. Des groseilles vertes dures comme des balles, j'en ai épluché des tas pour maman quand j'étais gosse. »« Vous ne pouvez pas sans y voir !» murmura Élise confondue. « Vous croyez ça? On va faire la preuve. Où sont-elles, ces groseilles? Donnez-moi une poignée !» 5 minutes plus tard, Pierre, ayant réclamé des hommes pour la corvée, s'installait avec son équipe, Rick et Bock, la grande écuelle en terre rouge, une corbeille pour les groseilles épluchées et Popole par-dessus le marché, sur le banc qui se trouvait à droite de la porte. Les journaliers et le domestique, assis sur l'autre banc, fumaient leurs pipes. Popole réclamait son histoire. Le jeune soldat lui raconta comment, se trouvant en seconde ligne, il avait apprivoisé un pinson qui venait sur le bord de la tranchée, puis dans le fond du cas, puis finalement dans la main, piquer des miettes. Et comment, sous un bombardement inattendu, le pinson avait montré une bravoure extrême, battant des ailes et s'évertuant à crier pour faire autant de bruit que les marmites. Dans cette occasion, il avait reçu le nom de Croix de guerre. Cet innocent récit amusa beaucoup Popole, qui ne fut pas loin d'imaginer que la guerre consistait surtout à apprivoiser des pinsons et qui consentit à aller se coucher sur ses douces impressions. Au bout d'une demi-heure, l'écuelle était vidée. « Il me semble que j'ai bien gagné une cigarette, » dit Pierre en tirant son étui. « Puis-je vous en offrir, messieurs ?»« Ce serait plutôt à nous de vous faire la politesse, » répondit Justin le domestique. « Mais on n'a que du burus pour la pipe. » Prenez, prenez, insista Pierre, tendant toujours son étui. Vous ne me privez pas, je vous assure. Dans le train, de Pontarlier jusqu'à la dernière gare, les voyageurs m'ont bourré de tabac, de cigares, de cigarettes. J'ai beau avoir 14 poches, je ne savais plus où fourrer tout cela. Et du chocolat. Ma musette en est pleine. Demain, il y aura grand partage. Bock, tu m'entends ?
C'est à toi qu'on l'a donné, murmura le petit.
Penses-tu, quand il y a du rabiot, on partage. Et tu parles s'il y en a du rabiot, puisque je te dis que ma musette en est pleine.
Un des journaliers, celui qui en général parlait avant les autres, fit d'un ton méditatif.
J'ai entendu dire que vous avez bien des chansons de guerre par là-bas.
D'un geste vague du pouce, par-dessus son épaule, il semblait indiquer tout le front d'Occident.
J'ai entendu une fois sur la route des types qui chantaient « Les costauds à Currières de Castelnau ». Je les ai suivis plus d'une demi-heure. Ça me plaisait, ça marque bien le pas. Si vous en aviez une, par hasard, de ces chansons, on n'a pas souvent l'occasion.
Si ça peut vous faire plaisir, dit Pierre.
Voyons, le pont de Minocourt. Il possédait une voix de baryton agréable, pas très forte, à laquelle se joignirent bientôt deux fortes basses et un ténor, puis le timbre haut et clair de Bock. Car dans les montagnes du Jura, dès que quelqu'un chante, tout le monde chante. Le refrain fut répété avec enthousiasme. Mais qu'importe la mort si nous sommes les plus forts? N'avons-nous pas nos 155 coups au pont de Minocourt? Pauvre poésie, pauvre musique, de la réalité tout de même.
Le caporal qui a composé ça, dit Pierre, a été tué le lendemain à son créneau.
Mais qu'importe la mort si nous sommes les plus forts?
Alors, ces braves gens qui n'avaient pas vu la guerre en sentirent tout à coup le frisson passer sur eux et se trouvèrent petits devant l'héroïsme des disparus et la crâne résignation des grands blessés.